Bimadieu, toujours Rocky, Périgord qui toujours et qui souhaite demeurer terre d'asile comme tout le sud occitan. Là on est une centaine devant la préfecture, 6 heures. On espère être reçu par le préfet ou par un représentant de la préfecture pour demander des papiers et le maintien sur notre territoire, sur notre commune à Brantôme, dans notre beau Périgord vert, où il y a plein de places. Pour la famille Kiki, ils ne sont pas anglais, ils sont kosovars, mais on a envie qu'ils viennent chez nous, qu'ils restent chez nous, comme les Anglais d'ailleurs, comme les Hollandais. Pourquoi pas la famille Kiki. Donc, on espère que tout le monde va pousser très fort, un peu comme à Lanzapac, dans une mêlée, nous on est la terre du rugby. Il faut pousser pour regarder cette famille ici, en Périgord, à Diwadiou. N'hésitez pas à téléphoner, appeler à Périgueux, la préfecture. Il faut pousser tous ensemble pour les garder. Leurs gamins sont mignons comme tout et ils ont vraiment l'intention de rester s'intégrer. Livam, allez vous monde.
Entendu ce matin dans le 7-9 de France Inter. Alors, il faut refaire la Constitution pour contenter tout le monde, ceux qui veulent plus de libéralisme et ceux qui en ont peur, disait le remplaçant de Stéphane Paoli. Vous avez bien entendu, le contraire de plus, c'est peur. C'est que maintenant j'aiguise mon sens critique depuis que je lis Les Nouveaux Chiens de Garde de Serge Halimi, 6 euros seulement. Je jubile à sa plume acérée, à ses métaphores sur la cour, son humour sarcastique. Marie-Paul de Villeville, au revoir.
Salut à toutes et à tous. Ce vendredi 16 juin, rendez-vous au repère de la Pradelle Puylaurens. Nous débattrons, comme d'hab, de l'actualité. Coupe du monde ou traitement hormonal de la ménopause, c'est au choix de chacun. Nous nous raconterons également les émissions de là-bas, si j'y suis, que les uns ou les autres n'auraient pas pu écouter ces 15 derniers jours. C'est toujours chez Tino, au bar du château, à partir de 18h30. Et grande nouveauté, Claude, pizzaïolo ambulant, sera devant le bar. Nous pourrons donc à loisir deviser, nous restaurer sur la terrasse du café. Venez nombreux. Ciao.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre l'émission avec Loïc Vacan. Et vraiment, ça m'a fait un plaisir fou d'entendre quelqu'un d'intelligent parler de solutions intelligentes et humaines. Et ça fait du bien d'entendre des gens comme ça, parce que moi j'ai tout le temps l'impression de vivre dans un monde de fous, dans un monde d'égoïsme forcené, d'injustice totale, un monde monstrueux. Et tout d'un coup, ça m'a fait un choc d'entendre ça, parce que moi ça fait des années que je pense que la seule solution, en tous les cas dans nos pays, c'est de ce que j'appelle moi une allocation de vie, et ce que lui appelle un revenu universel du citoyen, qui est la moindre des choses de nos jours. Voilà, donc bravo de l'avoir invité, et puis je vais acheter son bouquin, ça c'est clair. Salut.
Oui, je rappelle le titre du bouquin de Loïc Vacan dont on a parlé hier, dont il a parlé hier, c'est « Paria urbain, ghetto, banlieue, état ». Et c'est aux éditions de La Découverte. Bien content de ces messages qui sont bien contents. Contente en tout cas cette auditrice. Il y a eu plusieurs messages comme ça pour dire ouais c'est bien. Pourtant c'est pas facile, faut bien dire la vérité. Loïc Vacan enseigne la sociologie à Berkeley aux États-Unis. C'est un prof, c'est un intellectuel et c'est une langue qui n'est pas forcément facile à piger, surtout à la vitesse de la radio. Hein. Quand on lit un livre, ben on va à son propre rythme. Là c'est un rythme imposé. C'est nous qui imposons le rythme, hein, c'est nous qui... Et là, en l'occurrence, c'était lui, donc... Mais voilà, on est content que vous ayez suivi ça. Il faut aussi faire entendre ces voix-là, même si, parfois, bah tiens, il faut aller sur le podcast de là-bas, si j'y suis. Hein, je crois que ça commence à fonctionner, c'est en place, et vous pouvez désormais, donc, depuis lundi, réécouter nos belles émissions modestes et géniales. C'est sympa aussi le message avec le pizzaïolo ambulant, c'est bien comme tout, voilà, on bouffe des pizzas, puis on parle de tas de choses, dont évidemment le centre du monde, le nombril du monde, qui est là-bas, si j'y suis, bien évidemment, dans les repères de là-bas, de plus en plus nombreux à travers notre belle hexagone. Aujourd'hui, on va revenir sur un classique de là-bas, si j'y suis, un retour aux sources de là-bas, on pourrait dire le métro. Oh, le métro, ben dis donc, c'est banal et tout, et vous allez voir, pas du tout dans ce reportage d'Hervé Pochon. Et je vous rappelle encore une chose avant de s'embarquer, c'est que c'est la semaine prochaine, le mardi 20 juin, que vous pourrez entendre le procès en réhabilitation du grand philosophe français BHL, que nous avons enregistré il y a quelques temps déjà au théâtre de Jazet en public. Et c'était un bon moment, j'espère que vous amuserez bien, que ça vous intéressera et que vous serez heureux de savoir que ce grand intellectuel français est réhabilité. Je peux vous dire que ça finit très bien, il sera réhabilité à la fin du procès, mais pour arriver à cette réhabilitation, voilà, il y aura des péripéties, ce sera mardi prochain. Aujourd'hui donc, le métro, après les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37.
J'ai beaucoup apprécié l'émission d'aujourd'hui avec le sociologue qui s'appelle Monsieur Vacan, je me rappelle plus son prénom. Et si c'était possible de votre part de me communiquer les coordonnées de son livre et également l'éditeur, parce que j'écoutais tout en travaillant et j'avoue que j'ai pas noté quoi. Alors je voulais remercier encore pour votre émission qui donne un bol d'air, surtout quand on est sur la route et qu'on travaille. Et voilà, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit aujourd'hui, ce que Monsieur Vacan a dit. Et moi, j'aurais pas fait le rapprochement entre le Fordisme et Keynes, mais je trouve que c'était assez intéressant. Je pense que pour en penser des gens qui sont sociologues ou philosophes des fois même, mais je trouve que c'est intéressant.
Je suis Isabelle Thomet, du comité de soutien à la famille Cagny, et donc nous appelons à une manifestation de soutien pour cette famille d'origine sénégalaise. Les deux filles sont nées en France, l'une est scolarisée en école maternelle, mais même avec les nouvelles déclarations de Sarkozy, on n'est pas sûr qu'elles soient régularisables, et pour l'instant, elles sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Donc on vous appelle à venir nombreux manifester vendredi 16 juin à 16h45 devant l'école du 65 rue Simon Bolivar, Paris 19e. Merci beaucoup.
Bonjour Daniel, c'est Pascal de la radio associative nantaise Jet FM, enfin herblinoise exactement, et également de l'association Histoire d'Onde. On organise le mardi 20 juin, c'est à 20h au centre socioculturel de la Bernardière à Saint-Herblain, une causerie avec François Ruffin autour de son livre Quartier Nord. C'est tout à fait gratuit et on aura droit à une présentation de l'ouvrage donc par son auteur, et puis d'une discussion ensuite sur les problématiques et puis les thématiques soulevées par cet excellent bouquin. Voilà, c'est totalement gratuit. Si vous voulez plus de renseignements, 02 40 46 28 77 ou alors sur le site d'Histoire d'Onde, http://h2o.ouvaton.org. Voilà, une causerie bien utile par les temps qui courent. Merci Daniel, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Hervé Pochon là-bas, si je suis.
Flight number two.
Le pire, cependant, c'était que les crabes s'étaient occupés d'elle. J'avais vu des carrelés et des flétans que des pêcheurs avaient laissés trop longtemps dans leur filet, leur abdomen complètement dévoré. Mais je n'aurais jamais pensé que des crabes pouvaient s'en prendre à un corps humain avec une telle voracité. Le visage de Madame Campbell était transformé en une horrible caricature par des petits crabes à la carapace verte qui grouillaient et s'affairaient, maintenant dans ses orbites.
Dans le RER, dans l'ordinaire ER, qu'est-ce tu lis? Qu'est-ce tu dis? Qu'est-ce tu vis? Qu'est-ce tu rêves? Qu'est-ce tu lis? Qu'est-ce tu
dis?
Qu'est-ce tu rêves? Qu'est-ce tu rêves?
Ils agitaient leurs mains, se battaient entre eux et se grimpaient les uns sur les autres. Leurs carapaces et leurs pattes cliquetaient et crissaient comme d'incessantes castagnettes. Les crabes sortaient déjà de l'ouverture béante à moitié dévorée entre ses jambes.
Ils tiraient
sur la chair blanche et tendre.
Le gir reparait les charmilles de dentelle. Il voudrait qu'à Frima les avenues du palais de la Seine roulaient des flots d'argent.
Il fait un temps, il fait un printemps. À coincer la bulle, se disent les bulles coincées dans le RER. extraordinaire ER. Comment sortir? Pour beaucoup, le livre apporte une porte, une fenêtre avec vue.
Je regardais autour de moi, la mer montait, il venait lécher les rochers, apportant des cules sales, des bruits de bois flottants et des arbres entiers de mazout. Il n'y avait qu'une trace des bâtiments de mazout, une trace sur sa carte. Absolument rien qui pouvait permettre la
vie. Bulle coincée, chaque jour, chaque instant, des milliers d'usagers. Usagers dans le petit train de vie se plonge dans un livre ouvert. Avec Hervé, on leur a dit « Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu lis ?» Et on a ouvert des univers, des tiroirs, des prières, des rêveries très proches et très divers. 1000 parcours, 1000 voyages dans le voyage lui-même. Le transport en commun est un transport solitaire. Et la lecture demeure ce beau vice impuni. Cette attitude, est-ce que vous y pensez? Ce mystère, quelqu'un d'immobile dans le tumulte et qui est ailleurs, par le simple truchement de petites traces noires alignées sur des bouts de papier.
L'inspecteur Miller pénétra dans la cuisine et se tint sous la lumière crue du plafond.
Vie du rail, on se tire, on s'échappe par les lettres, on s'évade par le papier, on creuse un tunnel sous la couverture. Lire, c'est la belle. On fait mine d'être dans l'ordinaire ER, mais on est tous barrés. Livre devient lèvre. Livre devient ivre. Par le livre, on se délivre. Livre, livrie, bandit, loisir sec. Je lisais Sandra, c'est les stations de mon train de banlieue étaient les gares du Transsibérien. Krasnoïarsk, Irkoutsk, Chelyabin. Quand le moine lisait la légende de Novgorod, on traversait Pantin.
On a besoin de ton aide, Junior, dit Harold Smallow. Je ne crois pas si bien dire, fait Junior Jones. Ils ont coincé ma sœur, expliquai-je, ils ont coincé Franny, et ils sont en train de la violer. M'empoignant sous les aisselles, Junior Jones me souleva comme une plume, son visage plaqué contre le mien. Sans brutalité, il m'appuya contre le mur, mes pieds pendaient à 30 cm au moins du plancher. Je ne me débattis pas.
Fabuleux, fabuleux, fabuleux quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu rêves ? Ouvre-moi ta bulle. Hey. Est-ce que vous imaginez la nuit, si soudain on voyait les millions de rêves que font dans la nuit des millions de gens endormis? Les horreurs, les merveilles, les misères, les inconvenantes lubricités ou bien les rêves de pur baiser. Là, c'est éveillé, c'est le jour, c'est le RER, mais c'est pareil. Syracuse est un métro. Je me demande si Charles Baudelaire a une seule fois imaginé qu'il pourrait être lu dans le métro.
Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.
Mais vous l'apprenez par cœur, le poème, là ?
Tout à fait. En fait, c'est un peu exceptionnel, puisque je vais voir les résultats d'un examen, et donc pour passer l'angoisse, j'apprends effectivement le poème par cœur. Voilà. Derrière les ennuis, les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins.
Je peux vous demander le titre de votre livre ?
Oui, c'est une pièce de théâtre, Le Cocu Magnifique, de Cromberg.
C'est quoi l'histoire ?
Je la commence, hein, c'est assez farfelu, comme c'est une histoire écrite. C'est une jeune fille, Stella, qui est amoureuse de Bruno. Et celui-là s'imagine qu'il l'a trompée, voilà. Donc j'en suis là.
Okay.
Mais c'est une pure imagination de sa part.
Alors, il ne l'a pas trompée, en fait ?
Elle ne l'a pas trompée.
Elle ne l'a pas trompée, pardon.
Ah, non. Mais c'est ce qu'il s'imagine, comme il est tellement fou, amoureux, il se laisse, enfin, il délire. Mais c'est un délire verbal, c'est assez difficile à expliquer. Comme ça.
Et on peut même en lire un petit extrait ?
Que j'en lise un petit extrait. Quelle horreur. Je suis obligée, vraiment. Bon, bah, je vais lire celui-là, alors.
Alors c'est Bruno qui parle là. Oh, c'est horrible. Alors si j'avais su que ça m'arriverait le matin, alors... Bon, bref, j'étais endormie cette nuit sous un poids énorme. Tellement que ma place était creusée comme jamais dans la laine du matelas. Un sommeil de montagne. Elle a profité de mon anéantissement pour se glisser hors du lit. Par où est-elle sortie de la maison? Te l'a-t-elle dit? Non. Elle se défie aussi de toi. Elle sait combien tu m'es attachée. J'avais sous mon oreiller les clés des portes et des volets. Elle les aurait dérobées sans doute, si ma tête n'avait pas été si alourdie. Un homme ne l'eût pas soulevée. Sans clé, comment est-elle partie? Ah, elle a des inventions diaboliques. Crois-tu qu'une femme puisse se métamorphoser en souris et se couler sous une porte? Bon, elle le peut, je l'affirme. C'est une créature d'une autre nature que toi et moi.
On est à quelle station, là?
On est à Nanterre Préfecture.
Ordinaire ER aujourd'hui, mais mille millions d'univers, mille millions d'univers uniques. Dans le RER, avec Hervé, on a demandé aux gens qu'est-ce que vous lisez. Dites-moi, lisez-moi quelques mots de ce que vous lisez. Ouvrez-nous votre bulle quelques instants, histoire de montrer, de se démontrer cette incroyable cohabitation des univers que le livre montre et des univers que chacun de nous est. Et puis aussi, pour s'amuser, à voir que là, le livre a une fonction bien précise, bien particulière, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on donne très souvent de la lecture dans les émissions de télévision, par exemple, ce côté cossu, méprisant, et pour tout dire, intimidant. Cette face que prend très souvent la culture dans notre pays. Là, il s'agit vraiment... Est-ce que cette dame qui est en train de lire Le Cocu Magnifique pense à ce qu'elle est en train de faire de la culture? Mais pas du tout. Elle lit vraiment un livre. Et il se passe cette merveilleuse et sublime opération qui consiste à sécréter quelque chose. Je ne sais pas si le mot est très beau, il ne m'en vient pas un autre à l'esprit. Quelque chose d'absolument neuf entre l'auteur, l'écrivain, et puis l'imagination, l'imaginaire de cette personne. C'est cet imaginaire que le RER transporte et dont on a voulu essayer avec Hervé Pochon de faire quelques photos, quelques images de ces mille univers.
Hé, la jeune morte, le Simenon.
Et c'est quoi l'histoire?
Bah, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait assassiner dans la rue. Et puis Maigret, il cherche qui c'est. Voilà.
Et vous en êtes où, là?
À la fin, pratiquement.
Et vous avez une petite idée du meurtrier?
Non, pas du tout.
Non. Vous pouvez me lire un extrait?
Dans un bar élégant, il repérait une victime, un homme cossu de préférence, un industriel ou un commerçant de province. Après quelques verres en compagnie de sa victime, Jean Lemke ou Jules Steeb, John Donnelly, son locataire se plaignait de ne pas connaître le pays.
Il vous reste combien de pages?
Une quarantaine.
Bonne lecture alors, et merci.
Merci.
Mon gros coq chéri, etc.
Vous pouvez me lire un petit le début, la page?
Tu ne m'écris pas, je ne te veux plus, je ne viens jamais. Tu as donc cessé de m'aimer. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Dis-le-moi, je t'en supplie, mon cher amour. Moi, je t'aime tant. Je voudrais t'avoir toujours près de moi et t'embrasser toujours en te donnant au mon cœur, mon chat aimé, tous les noms tendres qui me viendraient à la pensée. Je t'adore, ô mon beau coq. Oui, ça. Mais c'est amusant, il y a aussi l'histoire d'héritage, de gens qui se disputent autour d'une femme qu'on croit morte et qui ressuscite. Enfin, c'est très amusant. Bon, passant, c'est peut-être un des meilleurs faiseurs de nouvelles de cette époque-là.
Et là, vous êtes à la retraite ou partez?
Je suis à la retraite, mais je travaille quand même un petit peu. Et j'ai monté une petite affaire de restauration d'orfèvrerie. Voilà.
Vous allez jusqu'où?
Dans le quartier du Temple, le quartier des Orfèvres, rue du Temple.
Eh ben, bonne journée alors.
Merci.
Le quai 2, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Ça veut dire quoi?
Ben, au nom de Dieu le plus clément et miséricordieux, on vous a créé de mâles et de femelles, de nations et de tribus. Le but, c'est l'échange culturel et la connaissance, et le meilleur d'entre vous est le plus pieux, question de piété, et non pas de race ou de... Voilà.
Priez souvent dans les transports en commun?
C'est pas une prière, mais c'est on lit le Coran, parce que en Coran il y a 60 hizb, 60 parties, et chaque jour il faut essayer de lire deux pour terminer à la fin du mois, et comme ça on est en contact toujours avec le Coran et on sait qu'est-ce qu'il y a pour comprendre.
Et donc vous lisez le matin et le soir?
Oui, un le matin et un le soir.
Et dans la journée, qu'est-ce que vous faites?
Ben, je travaille.
Donc quoi?
Ben, je suis étudiant.
Et vous êtes de quelle nationalité?
Marocaine.
L'univers dans un simple RER, une rame comme ça qui traverse la banlieue de Paris. Le Coran, du Coran, on a l'idée de, on lui donne l'idée d'échange culturel, formidable ce Coran. Mais ce qui est formidable, c'est que l'échange ne se fait pas juste à côté de ce garçon qui lit le Coran. Il y a dans le même wagon cette jeune fille qui lit ceci.
Il y avait 12 wagons pour 650 personnes. Dans le mien, nous n'étions que 45, mais parce que le wagon était petit. Pas de doute, ce que nous avions sous les yeux, ce que nous sentions sous nos pieds, c'était un de ces fameux convois allemands, de ceux qui ne reviennent pas, et dont nous avions si souvent entendu parler, en tremblant et vaguement incrédule. C'était bien cela, très exactement. Des wagons de marchandises, fermés de l'intérieur, et dedans, entassés sans pitié comme un chargement en gros, hommes, femmes et enfants, et en route pour le néant, la chute, le fond. Mais cette fois, c'est nous qui sommes dedans. La soif et le froid nous faisaient souffrir. À chaque arrêt, nous demandions de l'eau à grands cris, ou au moins une poignée de neige, mais notre appel fut rarement entendu. Les soldats de l'escorte éloignaient quiconque tentait de s'approcher du convoi. Deux jeunes mères qui avaient un enfant au sein gémissaient jour et nuit, implorant de l'eau. Nous supportions un peu mieux la faim, la fatigue et l'insomnie, rendues moins pénibles par la tension nerveuse. Mais les nuits étaient d'interminables cauchemars. Voilà, c'est un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi.
Vous êtes juive?
Oui, je suis juive.
Et vous lisez beaucoup de livres comme ça?
Non, peu, ça dépend des périodes. J'en lis un petit peu, j'arrête, je reprends, mais mes lectures ne sont pas faites que de livres comme ça. Non.
C'est l'histoire de quoi?
Une histoire d'horreur.
D'horreur?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est des extraterrestres, quoi.
Qui arrivent sur la Terre?
Oui. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais enfin, on pense que c'est ça.
Et vous avez une petite idée de ce qui va se passer?
De toute façon, c'est toujours comme dans tous les livres, hein, les gentils gagnent.
Ah. Et là, les gentils, c'est les extraterrestres?
Voilà. While Jack Neil shut the other door at the back of the house, Toby helped Heather pile pots, pans, dishes, flatware, and drinking glasses in front of the door between the kitchen and the back porch. That carefully balanced tower would topple with a resounding crash if the door was pushed open even slowly, alerting them if they were elsewhere in the house. Pendant que Jacques tape des clous sur la porte pour empêcher quelqu'un d'entrer.
Jacques, c'est un extraterrestre ou c'est...
Non, Jacques, c'est un garçon.
C'est un gentil.
C'est le mari, en fait. Donc, il y a Toby qui est sa mère, à empiler tout un bric-à-brac pour au cas où il y a quelqu'un qui rentre en bas, on va entendre tout délinguer.
Ah oui, comme ça, ils ne seront pas...
ils sont avertis.
Ouais, ils seront avertis par les extraterrestres. Si jamais les extraterrestres essayent de rentrer.
Voilà.
Allez, non, mais c'est affreux. Vous lisez pas, monsieur?
Non. Je fais les l'air les écrits. Je ne sais pas.
Vous ne savez pas lire?
Non.
Prière du temps présent. L'office du lundi matin. Hein, c'est l'hymne... Au Dieu de la création, le psaume 118. Bon. Alors, ouais. Les cieux racontent ta gloire, ô Seigneur. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour, au jour, en livre le message. La nuit, à la nuit, en donne connaissance. Ce n'est pas un discours. Il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Ce qu'ils proclament a retenti par toute la terre. Et leurs paroles jusqu'au bout du monde. Voilà, à la fin de l'hymne, en général, on dit « Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. »
Vous êtes prêtre?
Ah non, pas du tout. Et laïc ordinaire, hein. Mais là, justement, comme je suis en retard ce matin, hein, au lieu de lire à la maison, hein, je profite du transport, et puis en même temps, ça met en forme, si on peut dire, pour la journée.
Là, on est où?
Oh, ici, nous sommes au Bourget.
Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un doux, bénin et gracieux et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Je l'allais aborder quand d'un son plein d'éclat l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat qui sous son minois hypocrite contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté. » L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nos malfaires, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Et voilà, n'est-ce pas d'actualité?
Tout à fait. Mais vous êtes acteur, c'est pas possible.
Non, grand amateur de La Fontaine, grand amateur. Et dans le RER, c'est très agréable parce que ça distrait, c'est court, on peut en lire une, deux, enfin, voilà, en fonction du trajet.
Mais j'ai l'impression que vous les apprenez un peu par cœur.
Oui, quelques-unes, mais je vous laisse parce que je suis arrivé.
Ah, bon.
Bonne continuation.
Vous travaillez dans quoi?
Moi, j'écris un petit peu. Je suis journaliste, enfin, rédacteur. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Tu lis coincé dans ta bulle, coincé dans ton livre. En voyant ce que tous ces gens lisent, je me demande bien souvent, une fois de plus en tout cas, si on nous renvoie de nous-mêmes une bonne image. Je veux dire, est-ce que c'est une image juste que celle que l'idée qu'on se fait de nous-mêmes? On ne parle pas beaucoup de ça. C'est quand même des rêves extraordinaires. Toute cette cohabitation permanente de rêves qui, d'une manière extraordinaire aussi, ne communique jamais.
Éric Orsenna, Comédie Française.
Et qu'est-ce qui se passe là où on...
Je suis toute au début, donc je ne sais pas.
C'est l'histoire de quoi?
Mais j'en ai aucune idée, c'est les premières pages.
Vous avez quand même lu 30, 40 pages?
Oui, mais enfin 40 pages, c'est juste le début. C'est, voilà. C'est juste après la guerre, c'est tout ce que je peux vous dire.
Est-ce que vous pouvez me lire la première page?
Voilà. Il faisait beau ce 28 mai, l'hiver avait été long. On ouvrait les fenêtres pour la première fois depuis octobre. Les rues s'emplissaient du parfum des vieilles recluses au coin de l'âtre, au bord du poêle. D'innombrables femmes au balcon, on aurait dit Stendhal, l'opéra de Parme, d'innombrables jolies aux sorcières en fichu, frappaient leur tapis. Se venger avec rage du gris quotidien depuis l'automne, des grippes qui durent, des toux qui traînent. De temps en temps, pour franchir une rue où déjouer et déventer le soupçon, Charles jouait à l'enfant, il dérobait les chiens attachés à l'entrée des boucheries et les promenait en laisse. Voilà, c'était la première page.
C'est un livre de yoga.
Vous apprenez à faire du yoga?
Ah non, je suis le professeur de yoga.
Alors vous révisez dans le RER?
Oui, j'ai révisé dans le yoga ROR et j'apprends le technique de mon maître. Une définition de yoga, qu'est-ce que c'est le yoga? C'est ça que vous voulez savoir? Le yogi se trouve la plénitude dans la crasse de l'esprit qui est en lui. Alors il connaît la joie éternelle qui est au-delà de la limite des sens et que la raison.
Est-ce que ça vous arrive de pratiquer le yoga dans le RER?
Oui, ça par ma concentration. Et je prie qu'à l'intérieur du corps.
Donc, concrètement, c'est quand vous êtes dans les transports en commun, par la concentration, c'est-à-dire vous recentrez sur vous?
Voilà, ça recentrait sur moi. Même qu'il y a des dérangements de nuit, par exemple, le monsieur 6 qui chante dans le RER, ça ne me dérange pas par ma concentration.
Vous n'entendez pas?
J'entends pas. Parce que je suis un yogi, je laisse toujours la volonté pour les autres, pour ne pas être pressé dans le corps. Il faut toujours que mes muscles se relâchent à chaque instant, pour pouvoir la concentration. Je m'appelle le Sundi Krishna.
Ouais. Ça veut dire quelque chose?
Oui, Krishna, c'est un dieu, c'est le 8e incarnation de Vishnu. Et Sundi, c'est la pleine lune.
Voilà. Ben, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur.
Bonne journée.
Merci, vous demain.
Voilà. Vous êtes musicien?
Oui, je fais du piano jazz.
Donc vous n'avez pas votre instrument avec vous, quoi?
Ah non.
Bon, ben, je vous remercie. Et ça s'appelle comment?
De quoi? Ça, c'était Impression de John Coltrane.
Merci.
Surnaturel, il revient au galop, voilà Coltrane, pour le plus grand bonheur de tous. Et ça nous ramène au Duke. Et si ça nous ramène au Duke, ça nous ramène à Take the A-Train, c'est-à-dire le métro qui conduisait vers Harlem, vers les rêves, vers le sublime. Et on y est à chaque instant dans ce RER. Il suffit d'ouvrir une page, d'ouvrir la bulle, que quelqu'un accepte d'ouvrir un petit peu sa bulle pour entrer dans un univers inattendu, imprévu, inaperçu. Alors on a quand même, avec Hervé, voulu voir celui qui mène le train, le conducteur du train. Il faut vous dire aussi ceci, c'est que Hervé Pochon est un lecteur aussi, de train, enfin c'est quelqu'un qui lit dans le train comme vous tous, comme beaucoup d'entre nous, et il est en train de lire un livre qui s'appelle Mars de Fritz Horn, et il est monté dans la cabine du conducteur de ce RER et il a tenu lui-même à lire un passage de Mars. Ah.
Jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends l'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai prochainement. Mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose. C'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Je ne veux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois, avant de tomber malade. Cela ne signifie cependant pas que je veuille qualifier ma situation de particulièrement agréable. Je veux dire simplement qu'entre un état particulièrement peu réjouissant et un état simplement peu réjouissant, le second est tout de même préférable au premier. Je me suis donc décidé à noter mes souvenirs dans ce récit.
Je connais ce livre par cœur. C'est Mort de Fritz Zone. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup et ce livre, c'est certainement le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie. Ouais, je connais des passages. C'est incroyable, c'est vraiment un livre magnifique. Mais je peux parler là, je vous dis ça parce que ce passage, c'est vrai que je le connais très bien.
Vous en connaissez un autre par cœur?
La fin, je le fais par cœur. La fin, quand il parle de Mars, dans la mythologie grecque. Excusez-moi, là, je passe sur un passage difficile puisqu'il y a des travaux. Donc,
mais dites-nous ce que vous êtes en train de faire.
Là, il y a des travaux, ils vont changer l'aiguillage. Donc, nous sommes obligés de passer à 30 puisque la voie n'est pas stabilisée.
Et vous conduisez le RER, là?
Voilà, c'est la ligne A.
Vous pouvez me réciter les stations de la ligne A? Vous les connaissez par cœur?
Là, on est au Vézinay-le-Pec, après c'est Vézinay-Centre, Château-Croissy, Rueil-Malmaison. Nanterre-Ville, Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, après...
J'ai dépassé un peu. Et vous avez le temps de lire quand vous conduisez le RER?
Non, pas bon. Pas pendant qu'on conduit, c'est interdit, ça peut être dangereux, et puis c'est impossible de toute façon, vu le nombre de trucs qu'on a à faire, fermer les portes, conduire, surveiller la voie, les signaux, la vitesse, tout ça, donc c'est impossible, et puis c'est pas recommandé de toute façon.
Et entre deux stations?
Non, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Et puis, la lecture, c'est un moment privilégié. C'est pas possible de lire comme ça rapidement. Il faut un état d'esprit, il faut se vider complètement pour pouvoir s'imprégner de ce qu'on va lire. Enfin, moi, j'aime beaucoup lire, je lis énormément. Donc, je ne me vois pas lire n'importe comment et n'importe où. Je lis chez moi, dans mon lit souvent, parce que c'est le meilleur endroit, enfin, à mon sens. Mais pas là, pas dans ces conditions.
C'est quoi cette feuille-là qui est posée sur le tableau de bord?
Ça, c'est marqué dessus, c'est le bulletin de conduite. Alors, donc, il y a mes horaires, il y a puisqu'on change souvent de train.
Vous pouvez me lire, là?
Oui. Alors, ce matin, moi, j'ai commencé par un train qui se dénommait Bleu. Après, j'ai été le garé en WYWB. Maintenant, j'ai pris ce train, c'est un Neige. Ça s'appelle des codes mission. C'est pour permettre aux gens de connaître la destination du train. La lettre N, par exemple, c'est Boissy. Ce serait la Varenne, ce serait R, René, par exemple, ou Rudy. Je reviens à Zébu. Zébu, Z comme Saint-Germain. C'est comme ça. Voilà.
Qui vous a marqué dans le livre Mars?
La fatalité et l'angoisse d'être homme. L'angoisse d'être homme. Tout ce qu'il dit, bien sûr, la richesse, tout ça, son milieu, le milieu bourgeois et tout. Mais ce que j'ai ressenti, c'est avant tout dans ce livre, c'est l'angoisse devant la vie, l'impossibilité de vivre. Pour beaucoup de gens, enfin. Je connais des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne sont pas armés pour affronter la vie. Et ça, c'est peut-être un peu mon cas, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ce livre, j'ai vraiment été fasciné. Il y a longtemps, je l'ai lu à sa parution, je ne sais plus, en 83 ou 85, dans ces années-là. Mais c'est l'incapacité de vivre. Tout ce qu'il dit après, que le rôle de la société, de son milieu et tout ça, c'est vrai, mais. Pour moi, ça a été accessoire. Ce qui m'a fasciné, c'est l'incapacité de vivre d'un être humain qui n'était pas armé pour vivre.
Et vous pensez que vous n'êtes pas armé pour vivre?
Non, pas dans ce monde. Pas dans ce monde-là.
Qu'est-ce qui vous manque?
Je ne sais pas. Nous vivons dans un monde de loup, dans un monde, le monde du métro, tout ça, c'est très dur. Et des gens comme moi, on n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Il nous manque la violence, l'agressivité. Peut-être aussi un certain désir d'être que j'ai pas.
Dans un monde de loups, vous prenez pour quoi, vous?
Oh, pour rien, c'est même pas ça. C'est que je me reconnais pas. Je me reconnais pas dans ce monde. Pas du tout. J'ai rien à voir là-dedans. Avec les hommes, les êtres humains qui m'entourent, c'est comme si j'étais d'ailleurs. Mais il faut bien vivre, oui, ça. C'est quoi ce livre m'a frappé? Lui, il refuse de vivre, il meurt jeune. Je pensais à un certain moment que je serais mort jeune, et puis voilà, mais j'ai une santé de fer, il ne m'arrive rien. Mais je pensais que j'aurais eu la chance de mourir jeune, et puis c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, je sais pas pourquoi. J'arrive à la quarantaine, et parti comme c'est là, je risque de vivre centenaire. Ouais.
Vous venez de quel pays?
Ah oh là, c'est une histoire pas possible, ça. Moi, mes parents sont d'origine indienne, mais moi, je suis né aux Antilles. Mais j'ai vécu ici, surtout. Un peu de mon drame vient de ça, de ne pas savoir d'où je viens, qui je suis. Je ne suis pas tout à fait antillais, pas tout à fait français, pas tout à fait indien. Donc, mais c'est même pas tellement ça. Je me pose plus tellement ce genre de problème. Mais au départ, c'est très difficile de vivre sans repère, sans savoir ce qu'on est vraiment. Mais avec l'âge, on s'y fait, et puis ça amène vers d'autres choses, d'autres mondes, une autre façon de vivre. En tout cas, ça m'évite d'être un seul aussi, hein, puisque je ne peux pas prendre parti pour qui que ce soit.
Bon, le quai 2, Germain, tu me reçois?
Ça vous évite d'être quoi, d'être un...
Un salaud. Un salaud comme les gens qui se réclament d'un pays, d'un peuple, de trucs comme ça. Moi, j'ai la chance d'échapper à ça.
Excusez-moi, je vais couper le chauffage.
C'est quoi vos repères aujourd'hui?
J'ai quelque chose qui m'aide à vivre beaucoup, c'est il y a quelques années, j'ai découvert le bouddhisme. Et ça, j'y ai trouvé quelque chose qui vraiment m'a évité de me suicider. Ça m'a sauvé la vie. J'aimerais que je fasse quand même mon boulot. Voilà, sans plus. Hein.
Et vous arrivez à méditer en conduisant le RER?
Mais c'est fait pour ça, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Ça me permet de travailler ma respiration, ça, quand je suis tout seul, hein, pas quand il y a tout. Puis ça permet d'être seul. Je crois que... Ça, c'est quelque chose que tout le monde devait expérimenter une fois dans sa vie, la solitude. Pouvoir rester des heures tout seul, ou même des journées, simplement comme ça. Puisque plus personne n'a plus rien à dire à personne. Voilà. Et c'est pourquoi je fais ce boulot. C'est pourquoi j'aime ça. Parce qu'on est tout seul. Tout seul sur mon train, je parle à personne. Personne ne me parle et puis c'est bon.
Et qu'est-ce qui vous a à un moment tenté dans le suicide?
Mais simplement l'angoisse de vivre. L'angoisse et puis le désespoir d'être différent. Dans un monde pareil, où n'importe qui, n'importe quel le pauvre type, parce qu'il est de ce pays, il est de plein droit d'ici, et puis il te le fait sentir vraiment, et puis voilà. Enfin, parce que je ne suis pas d'ici. Je crois que tous les mecs qui ont été étrangers une fois dans leur vie ont ressenti ça, l'envie de ne plus être étranger. Ça, c'est la chose la plus terrible. Qui puisse arriver à quelqu'un, c'est être étranger. Et pourtant, je suis français, je suis né aux Antilles, donc je suis français, mais tout ça, c'est rien. On est français par la couleur de la peau. Il faut être blanc, il n'y a pas à chiquer. Il faut avoir la même culture, tout ça. Ah, ça, c'est des collègues.
Vous pensez que vous ne serez jamais considéré comme français, alors?
Pardon. C'est un collègue.
Voilà.
Tu veux chercher un coordinateur?
Oui. Oui. La dernière course.
Ah ouais. Moi, j'ai encore un boissier et je reviens par ces journées. Et je suis même...
C'est à la fois, toi.
Oh, c'est
tu veux rien lui dire?
Non.
C'est pour qui vous faites ça?
Pour France Inter.
Oui, mais quelle émission? Moi j'écoute souvent France Inter.
Là-bas, si j'y suis.
Oh, je connais bien. J'écoute tout. C'est quoi je fais du matin pour pouvoir écouter? Écoute, c'est l'émission de Daniel Mervet. Oui, là-bas, si j'y suis. Oh là là. De 60, il ne fallait pas l'oublier.
Voilà, j'avais dépassé la vitesse. Je vous perturbe. Daniel Mermet, ouais.
Ouais, c'est bien, vraiment bien. J'adore ça. J'écoute
souvent. Il faisait des émissions en après-midi.
Ouais.
Il y a quelques années, il faisait la coulée chaude, je crois, ou un truc comme ça. Bon, il y a longtemps, France Inter. Ouais.
Moi, j'écoute quoi France Inter parce qu'il n'y a pas de publicité. Et puis, c'est quand même bien.
Non, mais la coulée chaude, ça s'appelait pas la coulée chaude, l'émission, ça s'appelait la coulée douce quand même. Et c'était, je crois, les étés 84 et 85, vous vous rendez compte, il y a plus de 20 ans. Une émission érotique. Ah oui, elle était gonflée à cette époque-là. C'était l'après-midi sur France Inter. C'était un reportage aujourd'hui d'Hervé Pochon qui, comme vous l'avez constaté, a pris le métro. Une chose à dire à l'auditeur qui demandait le titre du livre de Loïc Vacant. C'est donc l'auteur, c'est Loïc Vacant. Le titre du bouquin, c'est Paria urbain, ghetto, banlieue, état, et c'est aux éditions de La Découverte. Et puis j'ai des messages demain soir à voir le film Quiero Vivir de Muriel Brenner sur les enfants des rues de Bogota à la Maroquinerie à partir de 20h, suivi d'un concert du groupe La Flore del Flango. C'est la Maroquinerie, c'est dans le 20e arrondissement. Pascal vous fait confiance pour trouver la Maroquinerie. Exactement. Et puis ce soir, ça c'est un tuyau d'Antoine Chao, à 20h et 21h50 à l'espace Saint-Michel, au métro Saint-Michel, L'œil des Zapatistes. C'est un film réalisé par le collectif Zapatiste, d'Indiens Zapatistes du Chiapas, et qui eux-mêmes ont filmé leur propre histoire, leurs propres conditions, et comment les Zapatistes voient leur histoire, voient évidemment le subcommandant multiplie à travers le monde ses expériences. On parlait l'autre jour des engraineurs, expérience de donner aux gens des caméras pour s'exprimer et pour encadrer très souvent quand même par des professionnels leur permettre d'affûter leur regard et de porter leur regard jusqu'à nous. Voilà, et puis n'oubliez pas non plus les repères de la base si j'y suis. Je vous rappelle que si vous voulez créer un repère, et ben c'est pas compliqué, vous trouvez un bistrot sympa dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier. Et puis, avec quelques copains, vous dites, bon, ben voilà, on va se réunir et on va faire le repère des amis de la base et j'y suis. Alors, repère, vous l'écrivez comme vous voulez. L'important, c'est de se retrouver toutes les semaines, toutes les deux semaines, une fois par mois, à discuter de tout, mais pas de rien. Et de refaire le monde, évidemment, autour de l'esprit de cette émission. Ça marche un peu partout. Le but, il est qu'une plus grande variété possible d'auditeurs qui se retrouvent là, puisque nous avons le bonheur extraordinaire effectivement, on le voit à travers le reportage de Pochon, d'Hervé Pochon, de nous adresser à une grande variété d'habitants de ce beau pays. Je dois vous dire encore qu'à la technique aujourd'hui, c'était Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Cette émission a été réalisée par Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Le Pascariello. Et le chef du répondeur, c'est l'incontournable Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37. Et n'oubliez pas, le mardi 20 à 17h, dans la base où j'y suis, nous assisterons au procès en réhabilitation de BHL. Réclame.